Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur 48 FM, il est 18h, ce journal vous est présenté par Arnaud Van Combrugge. Et aujourd'hui Arnaud, une information exclusive qui nous vient tout droit des Master 1 en journalisme.
Oui Dorine, trois étudiants de première année de Master en journalisme de l'Université de Liège ont enquêté sur l'inventeur de la Jupilère. Une émission spéciale sur le sujet aura lieu juste après ce journal, Thomas Carabin nous en dira plus. Dans le conflit Israël-Palestine, plus de 500 universitaires et étudiants se mobilisent dans une carte blanche pour le respect immédiat et intégral du droit international. Préparer sereinement sa session d'examen, c'est possible grâce au blocus assisté, une initiative de plus en plus répandue chez nous. Dessine-moi la machine de tes rêves, je la fabriquerai, découverte du projet My Machine dans ce journal. Vous l'avez très probablement déjà consommé une fois dans votre vie, mais savez-vous qui est l'inventeur de la Jupilère ? Non ? Eh bien nous non plus, et apparemment ce n'est clair pour personne. Thomas Carabin, Thomas Radieux et Edmond Memda-Binkon ont mené l'enquête. Tout de suite, un extrait.
Il s'agit d'une histoire improbable, comme il en existe dans toutes les familles. Un grand-père plein de secrets, mais qui a marqué l'histoire brassicole belge. Pendant de longues années, cette histoire a existé sous la forme de souvenirs. Mais Christine, la petite fille de cet homme surprenant, a décidé de mener ses recherches après un constat.
Voilà, je vais avoir 51 ans. J'ai plus derrière moi que devant moi. Et je me dis, il serait temps quand même que tu te replonges un petit peu dans tes racines.
Cela fait des années qu'on lui raconte la vie de son ancêtre brasseur. Pourtant, Christine ne sait presque rien sur lui. Même son père n'était pas très bavard à son sujet.
Il avait un peu tendance à moins raconter, il racontait mais pas trop. Mais il me disait quand même qu'il se rappelait que c'était quelqu'un d'important parce que les gens ukrainiens qui étaient dans les environs venaient. Il se rappelait très bien qu'il y avait souvent des réunions chez lui.
Elle ne cherche ni la gloire ni l'argent. Elle souhaite simplement que l'on se souvienne de l'activité de son grand-père dans la tour Pied-de-Bœuf. Cette tour qui rythmait la vie de la famille Martinive.
Ma grand-mère savait quand mon grand-père terminait parce qu'ils habitaient tout près de la tour. Et quand la lumière de la tour s'éteignait, elle disait à mon papa, mets la table, papa arrive.
Alors c'est une histoire un peu spéciale que vous nous présentez là, Thomas. Un Ukrainien fuyant la guerre dans son pays pour s'installer en Belgique et devenir l'inventeur d'une des bières les plus vendues dans le monde.
Alors effectivement Arnaud, cette histoire nous a tout de suite marqué. Déjà parce que c'est un des grands noms de la bière belge, vendu par le plus grand groupe brassicole du monde. Donc clairement ça intrigue de savoir qui a pu l'inventer. Mais surtout c'est assez surprenant que l'inventeur d'une telle bière ait sombré dans l'oubli. D'autant plus qu'il n'est pas né en Belgique, il vient d'Ukraine, il a fait des études en Tchécoslovaquie, il s'est installé à Bruxelles et puis finalement à Liège. Donc clairement il a eu une vie qui mérite d'être racontée et quand on pose des questions, personne ne nous répond.
Et comment concrètement s'est déroulée votre enquête ? Parce que les faits ne datent pas d'hier.
Comme tu dis, on a rencontré quand même quelques difficultés, c'était assez lent. Les événements se sont déroulés donc il y a un peu plus de 60 ans, donc il n'y a plus personne pour en parler et il faut systématiquement passer par les archives. Mais là encore, on s'est retrouvé face à des murs. Tout d'abord, Abbé InBev, sur qui on comptait vraiment pour nous aider à confirmer ou non ces informations. Ils n'ont pas semblé particulièrement intéressés et puis même la famille Pied-de-Bœuf n'a pas vraiment su nous aider, ce qui était assez surprenant. Mais au final, c'est les archives officielles de l'État qui ont pu nous aider à avancer et à amener une conclusion satisfaisante.
Merci Thomas. Vous pourrez découvrir cette histoire et sa conclusion dans l'émission spéciale après ce journal. Un collectif d'étudiants et d'universitaires ont publié une carte blanche adressée aux représentants universitaires et gouvernementaux dans lequel ils exigent que ceux-ci s'engagent pour le respect immédiat et intégral du droit international, Garance.
Oui, on vous en parlait il y a quelques semaines, une manifestation organisée par le COMAC et d'autres cercles universitaires s'était tenue place du 20 août. Parmi les revendications, les manifestants exigeaient une prise de position claire de la part de l'Université de Liège en faveur d'un cessez-le-feu. Aujourd'hui, le mouvement s'étend au-delà de notre université puisque plus de 500 étudiants et universitaires de tout le pays unissent leurs forces et leurs plumes dans une carte blanche. Ils en appellent à, je cite, « agir pour un cessez-le-feu immédiat et permanent qui permette la fin des massacres et la libération de toutes les personnes retenues en otage ou illégalement détenues et à peser sur le gouvernement israélien pour assurer le respect intégral du droit international, dont la fin de l'occupation et la colonisation ».
Et concrètement, qu'exigent les signataires ?
Eh bien, ils demandent à la Belgique de se positionner clairement par rapport à cette guerre, comme elle l'avait fait en 2022 lors de l'agression russe en Ukraine. Selon les signataires, la Belgique et les universités belges disposent de leviers d'action pour faire pression sur Israël et le Hamas, et notamment des leviers économiques, puisque la Belgique importe annuellement 1,5 milliard d'euros de produits israéliens. Par ailleurs, nos universités sont engagées dans des partenariats de recherche avec des institutions israéliennes.
Et est-ce que cette carte blanche est neutre ?
Alors, en condamnant simultanément les attaques du Hamas et d'Israël, les signataires ne prennent effectivement parti pour aucun camp, si ce n'est celui des civils israéliens et palestiniens, pour leur protection donc. Toutefois, ils condamnent quand même ce qu'ils qualifient comme la colonisation israélienne à Gaza, et en cela, ils prennent parti contre le gouvernement de Netanyahou.
Merci Garance. Et à noter que la carte blanche reste ouverte pour de nouvelles signatures. Et dans l'actualité internationale, Enes, une éruption volcanique a débuté lundi soir en Islande, à quelques kilomètres de Grindavik.
La ville avait été évacuée le 11 novembre après une forte activité sismique. Selon l'Institut météorologique islandais, NIMO, l'éruption en elle-même a commencé lundi soir vers 21h à la suite d'un tremblement de terre. Les images de l'éruption diffusées en direct montrent des jets de lave orange vifs entourés de nuages de fumée rouge. La puissance de l'éruption semble plutôt diminuer, a écrit l'IMO sur son site internet mardi matin. Aucun pays n'est mieux préparé aux catastrophes naturelles que l'Islande, avait affirmé la première ministre le 18 novembre.
Et le Conseil de sécurité de l'ONU a lancé ce mardi un retrait anticipé mais progressif des casques bleus en République du Congo, retrait réclamé par le gouvernement de Kinshasa, Salomé.
Effectivement, Arnaud, à la veille d'élections au risque dans le pays, qui coïncident avec l'expiration du mandat de la mission de l'ONU, le Conseil de sécurité a souligné son inquiétude concernant l'escalade de la violence et les tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais réclame depuis des mois un retrait accéléré des casques bleus. Il juge les forces onusiennes inefficaces pour protéger les civils face aux milices qui sévissent depuis 30 ans dans l'est du pays. Mais plusieurs membres du Conseil ont émis des doutes ces derniers mois sur le fait que les forces congolaises soient prêtes à remplacer les casques bleus pour assurer la sécurité de la population.
Et le blocus approche à grands pas pour les étudiants, une étude qui n'est pas toujours facile. Vous ne savez pas comment vous y prendre ? Divers accompagnements sont mis en place pour vous aider à réviser, comme les blocus assistés. Dorine Donati s'est entretenue avec Mathieu Vranken, directeur d'une ASBL qui propose ses bootcamps d'études.
Étudier collectivement et sans téléphone, c'est possible. Destiné aux étudiants en haute école et à l'université, le blocus assisté poursuit un objectif très simple.
L'objectif, c'est de vous faire étudier 8 heures par jour. Donc c'est vraiment la version intensive. Et alors, en pratique, comment ça se passe ? Les étudiants arrivent à 8h30 le matin et sont répartis par classe en fonction des matières qu'ils souhaitent étudier.
Mathématiques, droit constitutionnel, finance, sociologie, des professeurs sont à disposition des étudiants pour revoir ensemble les matières qui posent problème. Et ce, dans un cadre convivial.
Pour les étudiants, c'est plus chouette que de devoir étudier seul chez soi à la maison. Le midi, il y a des petites pauses, il y a des jeux de société, des activités sportives, un petit sandwich. Les gens se font des amis. Et puis, dès qu'on est bloqué sur sa matière, au lieu de se décourager, de s'énerver, on lève juste la main et le professeur vient. Donc, on a de temps en temps des élèves qui sont forcés par leurs parents, qui n'ont pas envie. Et puis, au final, qui ressortent et qui disent « Ah bah oui, au final, c'est quand même pas mal ».
Un fameux coup de pouce pour les étudiants en retard dans leur session qui leur permettra, par la même occasion, d'acquérir une méthode de travail efficace.
Et on souhaite bonne chance à tous les étudiants qui entament très prochainement leur blocus.
Il est 18h10, vous écoutez toujours 48FM.
Hier avait lieu à Liège la 4e édition du projet My Machine, soutenu par l'ASBL Basse Meuse. Un événement qui a rassemblé pas moins de 130 enfants dans les installations de Helmogram et de la Haute École de la province de Liège. Un projet scolaire destiné aux entrepreneurs de demain, Marine.
En effet, Arnaud, My Machine, c'est un projet innovant importé de chez nos voisins flamands. Des étudiants du primaire dessinent la machine de leurs rêves, des étudiants du supérieur la conceptualisent et enfin des étudiants du secondaire technique réalisent le prototypage. Betty Milano, chef de projet au sein de l'ASBL Basse Meuse Développement et responsable de l'implantation My Machine en province de Liège.
My Machine, c'est vraiment un projet transgénérationnel et collaboratif. En fait, le projet, ce sont les enfants, les élèves et les étudiants. C'est vraiment eux qui mènent le projet et qui permettent que le projet existe. L'idée, c'est vraiment de travailler avec les enfants du primaire, avec les enfants ou les élèves plutôt du secondaire technique, et puis avec les étudiants. Donc, il y a un fil conducteur tout au long de cette méthodologie.
Une méthodologie à laquelle les écoles sont invitées à participer chaque année, sur base volontaire. Destructeurs de moustiques ou encore robots pour les tâches ménagères, tous les projets sont les bienvenus dans ce petit monde qui prépare à une réalité entrepreneuriale.
Ça permet aussi à tous ces élèves et ces étudiants qui participent, c'est comme s'ils étaient dans une entreprise avec un client qui a une demande, parfois un peu particulière, un peu loufoque, et toutes les étapes que l'on rencontre dans la vraie vie et dans la gestion de projet, les imprévus, les budgets, ce qu'on avait prévu de faire, mais qui finalement on change un petit peu parce qu'on se rend compte que ce n'est pas réalisable, tout ça rentre aussi en compte.
Une activité créative avec un double objectif, faire rêver les enfants, mais aussi et surtout faire naître des vocations.
On connaît la pénurie des talents industriels, des talents techniques, et donc c'est vraiment une manière un peu plus ludique de mettre en avant, de faire la promotion de ces métiers et de montrer aujourd'hui aux jeunes que ce sont des métiers qui sont porteurs et peut-être aussi susciter chez les plus jeunes, donc les enfants qui participent au projet, un certain intérêt pour ces métiers qui sont parfois un peu méconnus et moins tangibles pour un enfant, par exemple, d'une dizaine d'années.
À ce jour, 280 dessins ont été réalisés depuis 2020 et 45 concepts ont été développés. Une vingtaine d'écoles et 320 enfants ont participé aux différentes éditions.
Nicolas Lacroix, dit Nico en vrai sur les réseaux sociaux, présente son premier one-man show ce soir au Trocadéro de Liège. Le titre, Trop gentil. Dans ce spectacle, le jeune Namurois opère une critique de la société de son époque, tout en humour. Interview au micro de Dorine Donati.
C'est une réflexion sur la société. Après, les gens font ce qu'ils veulent, évidemment. Je suis pas président. Mais je veux dire, oui, c'est ça. C'est un petit peu donner mon point de vue et puis qui veut prend. Faire passer des messages par l'humour, je trouve que c'est fort et c'est ce que j'essaie de faire. Ou ce que j'arrive à faire, je ne sais pas du tout. Mais je touche du bois. Mais oui, c'est ça. Je trouve que l'humour, il est fort pour ça. Il peut apaiser des choses, il peut faire passer des messages. C'est une arme, en fait, je pense. Les angoisses de ma génération, c'est tout ce qui est climat, intelligence artificielle, un petit peu ce qui part en testicule. Et du coup, c'est ça que dans mon spectacle, y a une mère dépressive qui ne se confie plus qu'à Alexa, parce qu'il n'y a plus qu'Alexa qui l'écoute. Évidemment, c'est triste de base, mais c'est tout en humour, bien entendu. Et donc voilà, j'aime un petit peu tout analyser, voir un petit peu où on en est. Après, c'est pas non plus plombant. Évidemment, on en rit. Et il faut en rire, parce que sinon, c'est compliqué.
Merci beaucoup, Dorine. Des thèmes qui parleront sans doute un peu à tout le monde.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, l'émission spéciale consacrée à l'enquête des Master 1 sur la paternité de la Jupiler.